Et puis dans 2 Corinthiens 10, 5, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Vous avez trouvé le lien entre ces deux textes ? C'était assez facile. Je les ai inscrits en jaune. Je l'ai inscrit en jaune, ce lien. C'est celui des pensées, de cette activité intérieure, un petit peu mystérieuse, qui est propre à l'homme. Je ne sais pas si les animaux pensent, mais moi, je pense, donc je suis. Ça fait partie de mon essence humaine. L'homme pense des choses. Et tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que nous avons dans le domaine des pensées, nous avons là un domaine tout à fait stratégique. Quelqu'un disait que les pensées orientaient la vie entière. Et c'est certainement vrai. En tout cas, ce que nous pensons va avoir une influence dans notre vie et sur notre comportement, sur nos émotions et sur notre comportement, les pensées, une zone stratégique. Une année, il y a un de mes enfants qui est revenu de classe de neige et il nous a raconté que plusieurs des enfants ne voulaient plus skier après 3 jours. Alors, quand on sait que le prix que ça coûte, les classes de neige, ça, c'est pas bon. Et on a su par après que tous ces enfants, ils étaient 3 ou 4, faisaient partie du même groupe de ski. Le groupe de William, c'était le moniteur de ski. Et que ce moniteur avait nommé le groupe d'enfants, son groupe de ski, le groupe des nuls. Alors, il voulait peut-être faire de l'humour, mais en même temps, il a imprimé dans la pensée de ses enfants qu'ils étaient nuls en ski. Et quand on se sent, quand on vous dit que vous êtes nul en ski, eh bien, vous êtes découragé. Et puis, à la fin, vous abandonnez. Alors, pour la petite histoire, ils ont changé de groupe, ils ont changé de moniteur, qui est devenu une monitrice, et ils ont repris goût au ski, heureusement. Ce qui est vrai pour le ski est vrai pour la vie aussi. Ce que nous imprimons dans nos pensées, ou ce qui s'imprime dans nos pensées, aura une influence sur notre comportement. Alors, il faut le dire tout de suite, Paul n'est pas en train de faire, n'appartient pas au mouvement de la pensée positive. Mais il a compris, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a compris toute l'importance des pensées. Et en terminant sa lettre aux Philippiens, nous sommes au 4e chapitre, il va donner comme un conseil pour la vie chrétienne, au reste, mes frères, au reste, pour terminer, au niveau des pensées, il vous faut rester concentré. Ou encore, chers amis de Philippe, il y a une bataille à mener dans votre vie et c'est celle de vos pensées. Et le verbe du verset 9 est très intéressant, qui a été traduit « être l'objet de vos pensées » ou « soit l'objet de vos pensées ». Il fait partie du vocabulaire comptable et il pourrait être traduit par « mettez à crédit » ou « portez à votre crédit ces pensées ». Faites entrer en compte toutes ces choses, portez-les à votre actif, traduit la TOB. Et quelle que soit la traduction, ce verbe signale que l'effort à fournir dans le domaine des pensées est tout à fait volontaire. Il y a Anne-Marie Morlaix, dans son commentaire de la Bible, qui écrit « Ce verbe, donc être l'objet de vos pensées ou mettre à crédit, ce verbe parle d'une attitude volontaire qui choisit de mettre à son crédit des pensées positives. Je crédite mon compte de pensées positives ou des pensées qui valent la peine d'être pensées. Des pensées qui seraient vraies, qui seraient fiables. Des pensées qui seraient nobles, qui sont dignes d'honneur ou qui ont de la classe. Des pensées justes, qui ne sont pas erronées. Des pensées pures ou innocentes, des pensées aimables qui valent l'approbation de tous, des pensées, des choses recommandables qui soient l'objet de vos pensées. Bref, tout ce qui est excellent et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et dans le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 10, 5, il y a un autre verbe qui est utilisé, qui est le verbe « capturer ». Nous faisons prisonnière, toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ, ou nous faisons captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Nous capturons au filet, s'il le faut, les pensées qui s'échappent et qui vont dans tous les sens, pour les amener sous le contrôle de Jésus, qui est la vérité. Nous capturons toute pensée négative et mensongère pour l'amener à l'obéissance de Christ, qui est la vérité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais moi, ça me parle d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, parce que j'ai l'impression que parfois, le monde de mes pensées, c'est un vrai remue-ménage. Ou, comme on dirait en Belgique, c'est un bazar. Ça, il y a du bazar, là. Et j'ai retenu l'accent belge encore. Il y a une véritable bataille qui se joue dans mes pensées et qui aura une influence sur mon comportement et sur mes émotions. Et il me semble qu'il faudrait pouvoir humblement gagner cette bataille dans nos pensées et ne pas se laisser submerger par ce flot de pensées qui va déterminer ma vie et qui vont et qui viennent et qui vont souvent dans le mauvais sens. Il y a là un véritable défi. Et puisqu'il s'agit d'un défi, je vous propose 4 pistes pour le relever, ce défi. C'est pas une recette que je voudrais vous donner, mais simplement des propositions fraternelles et je pense bibliques pour gagner, entre guillemets, la gagner. Enfin, parce qu'on n'est pas des gagnants dans la vie. On n'est pas des perdants non plus d'ailleurs. Mais avec Jésus, quand on l'a lu tout à l'heure, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans le domaine du combat, dans le domaine des pensées, eh bien, nous pouvons être aussi vainqueurs. La première de ces applications pratiques, et ça va être très pratique à partir de maintenant, pour rester concentré ou pour gagner la bataille de ces pensées, c'est penser à Dieu. Ça semble assez évident, mais il y a des évidences qu'il faut rappeler. Prendre le temps de penser à Dieu, diriger ses pensées vers Dieu et le faire de façon concrète, régulière, volontaire, le matin avant de commencer la journée, avant que les pensées noires ou les pensées mensongères nous assaillent, penser à Dieu avant le petit déjeuner ou pendant le petit déjeuner ou dans sa voiture ou dans le train ou devant l'ordinateur, penser à Dieu, un petit peu au travail quand même, à accomplir, mais penser à Dieu, à sa puissance, à sa bonté, à sa souveraineté, à sa victoire finale, à son amour, à la confiance que l'on peut en avoir. Et il s'agit de le faire, encore une fois, volontairement et consciemment, lui remettre cette zone difficile, cette zone à la fois difficile et déterminante de notre personnalité, nos pensées. Lui remettre nos pensées pour la journée dans une forme de prière qui serait celle-là. Seigneur, je ne sais pas de quoi ma journée sera faite, mais je la place sous ton regard. Je me place dans ta présence. Garde mes pensées. Je ne sais pas pourquoi, mais comme Stéphanie, quand on est devant, ça donne soif. Hein. Et le prophète Ésaïe fait une promesse de la part de Dieu à ceux qui placent leur confiance en Dieu. À celui qui se confie en toi, tu assures la paix. Tu assures la paix des pensées. Et Paul le dit au verset 7 du même chapitre 4 de Philippiens, priez Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensez en Jésus-Christ. Il y a là une promesse de Dieu, promesse qui gardera nos pensées par la prière, une promesse à saisir par la foi, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout le mécanisme. Comment ça se passe? Quand je prie, alors il se passe. On ne le comprend pas, mais c'est à saisir par la foi que Dieu garde nos pensées par la prière quand on lui fait confiance. La deuxième application pratique pour gagner, entre guillemets encore, la bataille de ses pensées, c'est de stocker la parole de Dieu dans ses pensées. Que la parole de Dieu demeure parmi vous dans toute sa richesse, dit Paul encore une fois dans Colossiens 3:16. Ça veut dire qu'elle demeure, qu'elle habite, qu'elle s'installe parmi nous, dans la communauté, mais aussi dans les pensées, parce qu'elle est la vérité. la parole de Dieu, la Bible est la vérité, il est nécessaire qu'elle puisse demeurer dans notre pensée pour que nos pensées puissent être dans la vérité aussi, et pour éviter la spirale du mensonge, et en particulier la spirale du mensonge sur soi-même. Tu es nul en ce qui est dans la vie. Hein. Mais pour gagner la bataille de ces pensées, il faut les investir avec la vérité de la parole, stocker la vérité de Dieu dans ses pensées. Et vous connaissez certainement, ou peut-être pas, mais je vous l'apprends, le psaume le plus long de la Bible, 119, le psaume 119, avec 150 versets, il faut deux ou trois jours pour le lire, mais c'est un psaume sur la parole de Dieu. Et tous les verbes qui concernent cette parole de Dieu, ces statuts, ces ordonnances, ces lois dont nous parle le psalmiste sont des verbes forts. J'incline mon cœur vers la parole, je soupire après la parole, je fais des délices de la parole, je serre la parole dans mon cœur. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie, je marcherai à l'aise, car je recherche ta parole, je recherche tes statuts. Je stocke ta parole. J'emmagasine ta parole et je marche à l'aise. Lire, étudier, méditer, mémoriser aussi la parole. Ta parole est dans mes pensées. Il ne s'agit pas de la connaître vaguement, hein, une fois par semaine ou même moins. On est parfois surpris d'entendre des gens qui cite la parole, et en fait, c'est pas la parole, c'est pas dans la parole. J'avais un ami, une fois, il donnait un témoignage public, on était assis au fond de la salle, comme d'habitude, on était jeunes à l'époque, on s'inscrit toujours au fond ou sur l'estrade, pour les jeunes, n'est-ce pas, Johan? Il a dit dans son témoignage, « Comme dit la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. » Et nous, on était au fond de la salle, on lui faisait des signes, temps mort, c'est pas dans la... Alors c'était pas grave, mais c'est juste pour illustrer le fait que pour la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité de Dieu s'installe dans nos pensées, il nous faut la connaître. Et il faut apprendre à la connaître. La Bible, voilà un lieu idéal où nos pensées peuvent se focaliser, où des choses vraies et des choses justes et des choses pures peuvent s'imprimer dans nos pensées. C'est un peu raccourci, mais on pourrait dire, pour gagner la bataille de vos pensées, lisez la Bible. Troisième application pratique, pour rester concentré au niveau des pensées, pour gagner la bataille de ces pensées, s'exposer au beau. Comme on s'expose aux rayons du soleil pour avoir meilleure mine, on pourrait exposer ses pensées aux belles choses, aux choses qui nous transportent, aux choses qui élèvent notre âme, qui sont belles et qui vous lavent un petit peu par cette beauté. La nature création, les arts, comme la musique, comme la littérature, comme la peinture. Le roi Saül était un homme tourmenté, un mauvais esprit l'agitait, on peut dire qu'il était agité par de mauvaises pensées, et quand cela le prenait, il appelait David pour qu'il puisse jouer de la harpe. 1 Samuel 16, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui, au son de la harpe jouée par David. Pour chasser les mauvaises pensées, il nous faut nous exposer à ce qui est beau, s'entourer de belles et bonnes choses. Il y a tant de choses moches dans la vie et dans le monde, des choses agressives qui nous assaillent, et qui cherche à pénétrer nos pensées, qu'il faut vraiment faire un effort conscient pour s'exposer au beau, aux belles et bonnes choses. Se mettre dans des situations où le beau et le bien, c'est le même mot en grec, kalos, beau et bien, puissent nous toucher. Alors il faudra peut-être faire des choix entre différentes activités et choisir peut-être l'activité qui est la plus porteuse de beau et de bien que l'autre. Faire consciemment le choix du beau. Nous avons maintenant depuis quelque temps la chance d'habiter une belle région avec la mer, les îles, l'Estérel, l'arrière-pays, puis le Mercantour un petit peu plus loin. Ce sont des choses belles. Sachons nous y promener si nous le pouvons, mais pas besoin de sortir trop loin, il y a des belles photos sur Facebook, il y a de beaux bouquets ce matin à l'église, et grâce à Simone et Augustine peut-être, en tout cas pour ce dimanche c'était Simone, et puis il y a un autre bouquet, je ne sais pas de qui ça vient, mais qu'importe, merci Sylvie. Bon, des porteuses de beaux, et on peut s'extasier devant cela, une bonne musique, un bon CD de musique ou une bonne playlist faite par ses enfants, avec un peu de rap dedans, mais il y a du beau rap. Moi, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir du beau rap, des choses belles, la belle musique, un beau paysage, de belles fleurs, de belles choses. Alors, il ne s'agit pas non plus de s'isoler du monde, de fuir le monde avec sa noirceur. Non, on est appelé à être, en tant que chrétien, à avoir la tête dans les nuages, peut-être, dans les pensées noble, pur, juste, vrai, digne de louange, mais les pieds bien sur terre. Et parfois, il faudra plonger les mains dans le cambouis du monde. Mais il faut aussi prendre l'occasion, saisir l'occasion ou chaque occasion qui se forme pour être proche du beau et du bien, de la bonne musique, je me répète, de belles images, un bel environnement, de bons amis, de bonnes conversations, de bonnes activités, s'exposer au beau et au bien. Il y a une dame, quand j'étais encore dans l'église de Bruxelles, j'avais le matin même parlé de l'inquiétude et j'avais dit aussi cette phrase de s'exposer au beau. Et l'après-midi, elle avait mis la chose en pratique, elle est partie dans la forêt de Soignes, c'est la forêt tout près de Bruxelles, et elle a mis sa voiture au parking et puis elle a fait une grande balade pour s'exposer au beau de la forêt de Soignes. Mais en revenant de la balade, elle a vu que sa vitre avait été fracturée et qu'on lui avait piqué son sac à main. Et en plus, bon, elle est rentrée, elle avait ses clés de voiture, elle est rentrée et comme elle était très énervée, elle a fait un petit accrochage avec sa voiture. Donc j'ai eu peur qu'elle m'en veuille et qu'elle me dise « Eric, tu vois, j'ai essayé de faire ce que tu as dit, de m'exposer au beau et voilà ce qui m'arrive. » Mais heureusement, elle était pleine de grâce et elle ne m'en a pas voulu. Mais on avait là la noirceur du monde, le vol et puis l'exposition au beau et elle a continué. Martine, elle s'appelait, Martine. Elle a continué à le faire. On a interviewé un coureur du Tour de France qui avait fait des études de philosophie. Et on lui a demandé, est-ce que ça vous aide sur le Tour de France d'avoir fait des études de philosophie ? Il me dit, non, la philo ne m'aide pas à pédaler plus vite, mais j'ai besoin de ne pas penser qu'au vélo. Et donc, j'ai besoin dans ma vie de penser à autre chose. Et donc, je pense philo. Et pour ce coureur du Tour de France, j'ai trouvé ça intéressant. Le beau, c'était la philosophie. Et la philosophie peut être très belle et très, très riche, même si c'est un examen pour ceux qui sont en première. Hein, c'est en première, le bac philo. Et que ça peut être un peu compliqué. Pour lui, pour ce coureur du Tour de France, la philo, c'était son beau auquel il s'exposait. Non pas pour gagner le Tour de France, mais pour avancer dans la course de la vie. Le dernier point, se préparer à l'action. D'habitude, j'ai que trois points dans mes messages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, il y en a un quatrième qui n'est pas évident, mais que j'ai lu dans le livre que je cite souvent de Neil Anderson, « Nouvelle identité pour une vie nouvelle » que je vous recommande. Pas évidente, mais je l'ai trouvée très intéressante et je crois très vraie aussi. Pour gagner la bataille de ses pensées, il faudra veiller à ce que ses pensées ne soient pas déconnectées de la réalité de l'action et de la réalité du service. Parce que les pensées ont tendance à se retourner sur elles-mêmes hein, à ne pas déboucher sur quelque chose, surtout. On ressasse ses pensées. C'est ce qui se passe avec la pensée inquiète. Hein. La pensée inquiète, on ressasse la pensée, on la tourne dans tous les sens et on n'avance pas. et elle s'auto-alimente, elle se développe, elle grandit, et elle débouche sur rien, et si elle ne débouche sur rien, elle devient une pensée angoisse, une pensée d'angoisse, une pensée angoissée. Pour gagner la bataille de ces pensées, il faut éviter cette rupture entre la pensée et l'activité. Il faut penser pour agir, il faut penser pour servir. Et Pierre l'apôtre, dans sa lettre, dans sa première lettre, au chapitre 1 et au verset 13, va le dire aussi, c'est pourquoi affermissez votre pensée. Et là aussi, c'est un verbe intéressant, parce que littéralement, il veut dire saignez les reins de votre pensée. Saignez les reins de votre pensée. Parce qu'à l'époque, tout le monde portait une tunique assez ample, sans ceinture, mais quand il devait travailler, quand la personne devait travailler et s'activer, il saignait les reins de sa ceinture et il relevait les pans de sa tunique pour pouvoir justement se mobiliser, s'activer, travailler. Et donc Pierre écrit « Relevez les pans de la tunique de vos pensées ». Et on pourrait dire aujourd'hui « Retroussez les manches de votre pensée ». Et il y a d'autres, il y a une autre version qui mettait simplement « Que votre esprit soit prêt pour le service ». Et la nouvelle Bible seconde que l'on appelle NBS marque mobilisez vos facultés mentales. Et la dernière version du regretté Alfred Kuhn, parole vivante, c'est pourquoi rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à agir. Que nos pensées soient prêtes et dirigées vers le service des autres, vers le service du prochain, vers le service des dieux. C'est une autre façon, une autre piste pour gagner la bataille de ces pensées. Voilà donc les quatre pistes proposées pour résumer et pour gagner la bataille de ses pensées. Pensez à Dieu, par la prière notamment. Stocker la parole de Dieu. S'exposer au beau et se préparer à l'action. Que le Seigneur nous donne de gagner par sa grâce et par son esprit qui agit puissamment en nous, qui nous donne de gagner avec lui, par lui et pour lui, la bataille de nos pensées. Amen.